Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler de maladies chroniques et puis on va en parler en partant de mon histoire personnelle. Donc ça va être un épisode peut-être un peu plus personnel que d'habitude. Je vais vous parler de mon parcours avec ma maladie chronique, comment c'est arrivé, comment j'ai traversé ça et puis je vais évidemment faire des liens avec des gens qui peuvent souffrir de ça parce que j'en accompagne quand même assez régulièrement dans mon cabinet, soit ciblé vraiment sur cette problématique, soit des personnes qui ont d'autres problématiques et qui vivent en même temps avec une maladie chronique. Je vais vous partager mes observations, comment moi j'ai géré les choses. Donc cet épisode, c'est pas des conseils qui vont aller pour tout le monde, c'est simplement mon récit. Et j'espère que si vous, vous souffrez d'une maladie chronique, si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, ben vous allez peut-être pouvoir tirer des conseils, des idées, de l'inspiration de ça. Alors peut-être, je vais commencer par définir en fait qu'est-ce que c'est qu'une maladie chronique. Eh bien l'OMS, elle définit ça comme une affection de longue durée qui, en général, évolue lentement. Et surtout, ben, c'est quelque chose où, a priori, on n'a pas encore de traitement. C'est pour ça qu'on l'appelle chronique, c'est qu'on part du principe qu'il faut s'attendre à l'avoir toute notre vie. Alors dans ces maladies chroniques, eh bien, il y a toute une part où c'est simplement qu'on ne connaît pas encore vraiment soit les causes exactes, soit la solution qu'on peut y amener. Et du coup, ben, on les considère comme des maladies chroniques, mais ben, on a toujours l'espoir que certaines maladies qu'on considère comme chroniques aujourd'hui, eh bien, on y trouve des solutions et que ben, elle passe dans une autre catégorie. Dans le paquet des maladies chroniques qu'on peut trouver, eh bien, souvent les symptômes qui vont être le plus présents, ça va être des douleurs, ça peut être des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, ça peut être ciblé sur certains organes, ou bien ben, voilà, ça peut être d'autres affections qui vont toucher certaines capacités physiques qui vont être plus ou moins handicapantes en fonction de la maladie et surtout en fonction des individus, car pour la même maladie, eh bien, on va pas forcément avoir le même vécu parce qu'elle n'évolue pas tout de la même manière. On n'a pas tous les mêmes ressources aussi pour les gérer. C'est là où c'est toujours important de replacer le récit de manière très personnelle et de ne pas faire des généralités parce que ben, moi, je connais quelqu'un qui a la fibromyalgie, donc toi, tu dois gérer exactement de la même manière et puis ça va évoluer exactement de la même manière. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. Alors, comment ça s'est passé pour ma propre histoire personnelle? Eh bien, moi, il se trouve que j'ai déclaré ce qu'on appelle une RCUH. Le terme entier, c'est rectocolite ulcéreuse hémorragique. Ça ressemble un peu à la maladie de Crohn, qui est peut-être un nom que vous avez plus entendu, qui est finalement en fait une inflammation de tout le tube digestif pour la maladie de Crohn, c'est-à-dire que c'est une maladie auto-immune. Donc en fait, c'est le système immunitaire qui se retourne contre notre propre corps et qui considère qu'il y a un problème en fait dans notre propre corps. Donc il fait erreur, ce système immunitaire, et puis malheureusement, bah, on ne sait pas forcément comment corriger ça. Alors la RCUH, eh bien c'est comme la maladie de Crohn, mais simplement qu'elle est située uniquement dans le côlon. Et moi, eh bien ça s'est déclaré dans un contexte de surcharge de travail, c'est-à-dire que j'étais employé dans une association, j'avais plusieurs jobs à cette époque-là, j'étais en train de développer mon activité indépendante de psychologue, je travaillais je crois à 50% dans une association, je travaillais encore de temps à autre ailleurs et puis je faisais encore parfois des veilles le soir dans un foyer où voilà, je dormais sur place. Donc j'avais déjà un emploi du temps très chargé. Et puis, il se trouve qu'il y a eu un peu une erreur dans le comptage de mes heures dans l'association où je travaillais. Il y a eu une incompréhension qui m'a amené en fait à cumuler des heures négatives. Et puis, ben, en fait, elles m'ont été signalées un peu trop tard et que j'en avais déjà accumulé 90, je crois. Et donc, on m'a dit, il faut rattraper ces heures, elles sont dues. Et puis, 90 heures, ça faisait énorme à rattraper quand on est à 50%. Et donc, moi, je me suis dit, je veux les rattraper le plus vite possible. Et je crois que ces 90 heures, je les ai rattrapées en un mois ou un mois et demi, quelque chose comme ça. Mais sauf que j'avais toujours toutes mes autres activités à côté. Donc, j'ai bossé jour et nuit. Dans cette association, on avait des horaires de jour. Parfois, on travaillait de nuit, de 9h à 2h du matin. Et donc, j'ai eu un mois et demi, deux mois hyper chargé. Et puis, à la fin de cela, j'avais pris des vacances. Et donc, le soir, avant de partir en vacances, tout d'un coup, je vais aux toilettes et puis je constate que j'ai du sang dans mes selles. Alors, au début, je ne me suis pas trop inquiété. Puis, je suis parti en vacances deux semaines. Et puis là, mon état s'est péjoré. J'ai cru que c'était une grosse gastro d'abord. Et puis, en gros, pour vous la faire bref, j'avais des diarrhées avec des pertes de sang. Et puis, j'allais aux toilettes environ 15 à 20 fois par jour. Et puis, comme je suis parti deux semaines en vacances, il y a déjà eu deux semaines où la crise s'est déclarée, où j'ai perdu du temps, j'ai pas eu de soins pendant ce moment-là. Quand je suis rentré, on pensait que c'était une gastro, donc on m'a donné des antibiotiques, donc ça m'a fait perdre de nouveau 10 jours. Et puis, mon état n'a fait que s'empirer. Je continue à aller non-stop aux toilettes jusqu'au moment où finalement j'arrivais même plus à m'alimenter. J'ai commencé à vomir. Et puis là, je me suis dit, c'est plus possible. Je vais aller à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, j'ai eu une assez mauvaise expérience parce que, je suis entré à l'hôpital et puis très vite, j'aurais pu m'organiser pour voir un gastro-entérologue. En dehors de l'hôpital, j'avais un rendez-vous pour le jour d'après ou deux jours après. Et malheureusement, l'hôpital a refusé de me laisser sortir. Ils ont dit non, c'est nous qui allons gérer tout ça. Et puis cet hôpital, j'étais là-bas. Et puis au bout de un ou deux jours, une infirmière ou une médecin, je ne sais plus, est venue me dire « Voilà, vous avez une maladie chronique, ça s'appelle la RCUH ». Ça ne se soigne pas, on n'en guérit pas, mais vous pourrez poser toutes vos questions à la gastro-entérologue qui viendra vous voir. Donc on m'annonce ça, c'est quand même déjà un choc à encaisser. Puis le problème, c'est que la gastro, elle ne venait pas. Donc elle n'est pas venue le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Et donc, ça faisait 4 jours que j'étais à l'hôpital, que je recevais finalement pas de soins, j'avais pas de traitement pour stopper la crise. On me faisait des examens, on m'a fait même l'examen du VIH, quand bien même j'avais fait juste avant. Enfin, on m'a fait toutes les batteries de tests possibles et imaginables. Et puis, on me disait toujours, oui, la gastro-entérologue a beaucoup de boulot, elle ne peut pas encore venir. Et moi, du coup, j'avais mes questions. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Alors qu'on m'a refusé, j'aurais pu voir un gastro à l'extérieur depuis 2 ou 3 jours. Et finalement, malheureusement, il a fallu que j'aille jusqu'à vraiment hausser le ton. Et j'ai dû commencer à faire un peu un scandale. En leur disant je vais partir, donc j'ai commencé à pacter mes affaires, je leur ai dit vous vous occupez pas de moi ici, j'ai toujours pas vu de médecin, ça fait bientôt une semaine que je suis là, le traitement on me promettait qu'il allait arriver, je leur disais mais je peux aller à pied à la pharmacie, je vais me le procurer, ils refusaient. Et du coup j'ai commencé à faire un peu un scandale en me disant si je vois pas la gastro-entérologue aujourd'hui, je vais partir et puis j'irai voir un médecin ailleurs. Et puis là comme par miracle, tout d'un coup, la gastro était disponible dans l'heure. Et puis, on a pu commencer finalement à me prendre en charge. Et puis, je suis sorti, j'avais une liste comme ça de médicaments. Quand j'ai vu mon gastro-entérologue à l'extérieur, il m'a biffé le 90% de la liste en me disant que ça ne servait à rien. Donc voilà, très mauvaise expérience. Ça ne veut pas dire que les hôpitaux sont mauvais, mais comme partout, ça arrive d'avoir des mauvaises expériences. Mais sur le moment, c'était vraiment très désagréable. Et puis ben, après, il s'en est suivi un début de traitement avec de la cortisone pour calmer vraiment la crise inflammatoire et finalement tester un premier traitement immunosuppresseur, puis finalement en trouver un deuxième parce que le premier, je répondais pas bien à ça. Donc, en gros, il s'est passé environ 3 mois, je crois, entre le début de la crise et le moment où on a commencé à trouver un traitement qui faisait effet. Alors, qu'est-ce qui a été compliqué là-dedans? Eh bien, c'est que pendant ces 3 mois, vous pouvez imaginer que 3 mois à aller 15 à 20 fois aux toilettes par jour, déjà, on ne fait pas grand-chose d'autre dans la journée, ça limite pas mal nos déplacements. Et puis, j'ai surtout perdu énormément de poids. J'ai perdu 10 kilos, je crois, en un mois. Des kilos que j'ai dû reprendre par la suite. Et puis, les traitements à la cortisone, c'est quelque chose... Alors, j'ai plutôt bien répondu à ça, mais j'ai pas eu trop d'effets secondaires. J'ai eu juste un peu de l'acné qui est venu. Et par contre, au niveau émotionnel, c'était plus compliqué parce qu'avec la cortisone, eh bien, ça me mettait vraiment... j'étais sur les nerfs. Pour vous dire, je suis parti juste après ça. J'avais 6 mois sabbatique au Canada avec ma compagne. Et j'étais encore sous traitement de cortisone. Et vraiment, du coup, c'était un moment de ma vie. J'étais là-bas plus ou moins en vacances. Je faisais du bénévolat, mais c'était très tranquille. J'avais pas de facteur de stress. Et pourtant, j'étais sur les nerfs. Le moindre inconvénient, ça me faisait vraiment péter un câble. Et puis, dès le moment où j'ai arrêté la cortisone, j'ai retrouvé mon tempérament tout à fait normal. Et puis alors, passé cette crise, ensuite, il vient le temps d'apprendre à gérer ça. Alors, je vais vous indiquer comment moi je l'ai géré. Et c'est là où c'est la partie qui est très personnelle, parce que il n'y a pas de juste ou de faux. Chaque expérience est différente. La sévérité des symptômes est différente. Mais je vais vous révéler comment moi j'ai fait, puis peut-être ça pourra inspirer certaines personnes. Moi, ma première façon de gérer ça, c'était un peu « go with the flow ». Ça veut dire que j'ai suivi finalement ce qu'on me disait. J'ai suivi le personnel soignant, j'ai suivi les instructions de mon médecin. Je me suis dit que je lui faisais confiance et puis que j'allais pas commencer à m'opposer à certaines choses, quand bien même ça m'enchante pas d'avoir un traitement immunosuppresseur. Mais je me suis dit, en fait, c'est pas moi le professionnel là-dedans, je vais me laisser guider. Là où je n'ai pas suivi ça, c'était l'épisode justement à l'hôpital, où là, je me suis mis en colère, et puis j'ai vraiment mis une limite, simplement parce que j'étais en demande de soins, et puis qu'on me les donnait pas. Mais dès le moment on a finalement accepté et commencé à vraiment me prodiguer des soins, c'est là où j'ai juste fait confiance et j'ai suivi la chose. La deuxième façon que j'ai utilisée pour gérer en fait cette situation, c'est que tout de suite, je me suis dit, je ne vais pas laisser cette maladie impacter ma vie. Alors, évidemment qu'elle a un impact. Mais je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, tout de suite, on m'a donné des flyers si je voulais aller dans un groupe de parole pour parler de ma maladie chronique et puis tout un tas de choses pour en fait commencer à faire tourner ma vie autour de cette maladie. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti et j'ai refusé ça. Je me suis dit non, cette maladie, elle est là, mais je vais prendre compte de sa présence. Mais je ne vais pas commencer à organiser ma vie autour d'elle. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Durant ma période où j'avais commencé le traitement, mais j'étais toujours en crise, donc j'allais tout le temps aux toilettes encore, le premier réflexe qu'on se dit, c'est je vais plutôt rester à la maison, parce que qu'est-ce que je fais si tout d'un coup j'ai besoin d'aller aux toilettes alors que je suis en pleine rue? Et puis, je me suis dit, en fait, le risque de ça, c'est que je commence à ne plus oser sortir de chez moi. Et donc, je me suis dit, je prends le risque et puis je vais aller faire mes activités comme je l'avais prévu. Alors, je prenais quelques précautions quand j'allais dans un lieu public, j'essayais de repérer où étaient les toilettes, etc. Mais je me suis dit, la condition pour que je garde ma liberté, c'est que j'accepte que ma foi, je puisse avoir besoin d'aller aux toilettes à un moment donné où il n'y en a pas à proximité. Je me rappelle dès ma sortie de l'hôpital, le jour où je suis sorti, donc j'avais perdu 10 kilos, hein, j'étais quand même vachement affaibli. Le soir même, je suis allé m'entraîner, j'avais mon entraînement de basket et j'avais juste besoin en fait d'aller me reconnecter à un truc qui me faisait du bien, à une de mes passions. Et ça a été dur physiquement, mais ça m'a fait grandement du bien. Et je pense que ça a été un moment aussi où j'ai affirmé ce côté-là de « je vais pas laisser la maladie impacter négativement ma vie ». Et puis, on parle de ce risque. J'ai pris ce risque de devoir aller une fois aux toilettes alors qu'il n'y en avait pas à proximité. Et puis, une fois, ça m'est arrivé. Voilà. Malheureusement, j'étais en plein milieu de la ville, aucune toilette à l'horizon. Et puis là, la crise s'est déclenchée. J'ai dû trouver un petit buisson quelque part pour m'y mettre. Alors, c'était un moment très gênant sur le moment. Mais maintenant, c'est une anecdote qui fait beaucoup rire mes amis. On en reparle de temps à autre. C'est un bon sujet de soirée. Et puis, c'est aussi une anecdote que moi, je partage avec des fois des clients à moi parce que y a des personnes qui ont justement le même type de problématique, de maladie chronique, mais ça peut être quelque chose qu'on peut aussi extrapoler à l'anxiété, à la peur de faire une crise d'angoisse dans un lieu public ou peu importe. Finalement, oui, il faut prendre ce risque. Et puis, le jour où ça arrive, le jour où on vit notre pire scénario, le scénario catastrophe, qu'on voit qu'on est capable de le vivre, de le traverser, puis que maintenant, j'arrive même à en rigoler, ça annule toutes ces peurs, toute l'anxiété, elle se dégonfle complètement parce que on a la preuve que en fait la plupart du temps ça n'arrive pas et que même si ça arrive, c'est pas grave. Alors à présent, qu'est-ce que j'ai changé suite à cette maladie chronique? Là, il y a plein d'écoles qui se confrontent entre la médecine allopathique et des médecines plus alternatives. Pour moi, ça fait assez du sens que s'il y a un truc inflammatoire dans le côlon, je me suis bien dit qu'il devait y avoir des liens quand même avec l'alimentation, avec la gestion du stress, etc. Dans les médecins que j'ai consultés, ils me disaient que non, ça n'avait aucune influence là-dessus. Alors voilà, moi, j'ai choisi l'option parce que j'étais en crise et ce qu'il fallait pour stopper ma crise, c'était des médicaments. Alors ça ne me fait pas plaisir de m'injecter un immunosuppresseur toutes les deux semaines qui coûte une blinde. Alors heureusement, j'ai une assurance maladie. Mais sur le moment, en fait, c'est la solution que j'ai choisie. Et puis maintenant, c'est toujours la question, est-ce que je prends le risque d'arrêter pour essayer de régler ça avec mon mode de vie ou pas? C'est la grande question. Donc, j'ai pris un peu la voie du milieu, c'est-à-dire que je continue avec ce traitement, je suis toujours les conseils de mon gastro-entérologue. Et puis, je me suis dit, je vais prendre ça comme une leçon de prendre soin de mon équilibre de vie. Ça s'est déclenché à un moment où j'avais vraiment exagéré dans le nombre d'heures de travail, où il y a eu, j'avais pas l'impression qu'il y avait tant de stress que ça, mais physiquement, il y avait de la fatigue. Donc, je me suis dit, maintenant, tu vas faire attention à préserver cet équilibre. Donc, je fais plus attention à mes horaires de travail, quand bien même je travaille encore beaucoup. Je me suis mis à faire beaucoup plus de sport. De plus en plus, je cherche à optimiser mon alimentation, mon hydratation. Et donc, dans une optique en fait, de santé et d'équilibre de vie globale. Alors, peut-être un des points déclencheurs, ça a été ça. Mais maintenant, je ne le fais plus du tout pour ça. Parce que, heureusement, grâce à mes médicaments, je vis totalement normalement. Je ne ressens aucun symptôme depuis que je suis sous traitement. Donc, je vis exactement de la même manière finalement qu'avant. Sauf que maintenant, j'ai changé certaines habitudes dans une optique de « je vais prendre plus soin de moi et de mon équilibre ». Alors, je vais peut-être terminer en vous donnant quelques conseils. Alors évidemment, ces conseils, comme je l'ai précisé auparavant, ils sont basés sur mon expérience, ma vision des choses. Donc, prenez-les comme tels. S'ils vous parlent, tant mieux. S'ils ne vous parlent pas, tant pis. C'est pas la vérité absolue. Moi, un truc que je conseille, c'est de faire très attention aux interprétations psychocorporelles. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup servi. C'est-à-dire, voilà, il y a une maladie chronique, puis tout de suite, il y a des gens, notamment des thérapeutes un peu alternatifs ou comme ça, quand j'étais dans des formations, par exemple, qui tout de suite allaient me dire « Ah, tu as ça, c'est parce que tu ne sais pas mettre tes limites ou tu t'es mis trop de côté ou ceci, cela, ou c'est quelque chose que tu as mal digéré. » Comme il y a des gens qui vont dire « Bah voilà, vous avez des douleurs au dos, c'est parce que vous portez le poids de quelque chose. » Alors, bien sûr que ces interprétations, elles sont intéressantes d'une manière philosophique. Des fois, on peut trouver des liens avec ça. En tout cas, je pense qu'il faut le prendre comme « Ok, si je mets cette symbolique, est-ce que ça me parle ?» Mais il faut faire très attention avec les liens de causalité. C'est-à-dire « Ah, tu as ça, c'est que tu as mal digéré tel événement. » Parce que, enfin voilà, je veux dire, ça n'a pas de lien de causalité direct. Il n'y a rien qui prouve ça. Et puis surtout, ben, en fait, ce genre d'interprétation, déjà quand on est en train de souffrir d'une maladie, on n'a pas demandé à avoir ce genre d'interprétation. Et puis surtout, ça peut être très culpabilisant parce qu'il y a un truc qui nous tombe dessus. Puis en plus, les gens viennent nous dire « Ah ben, si t'as ça, c'est parce que t'as pas fait ci ou tu as fait ça. » Ce qui est évidemment extrêmement agaçant et ça peut être très culpabilisant. Alors que ben, souvent, les maladies chroniques, le mot qui sort de la bouche des médecins, c'est multifactoriel. On peut pas vraiment dire. C'est peut-être un peu la gestion du stress, c'est peut-être l'alimentation, c'est peut-être ceci, cela. On ne sait pas. Donc, un conseil. Alors, si vous êtes des gens qui donnent ce genre de conseils, s'il vous plaît, arrêtez. Et puis, si vous êtes des personnes qui recevez ce genre de conseils, ben, mettez de la distance par rapport à ça parce que vous n'avez pas besoin de ce genre de remarques en plus de ce que vous êtes déjà en train de vivre. Un deuxième conseil que je peux donner, c'est peut-être de chercher à faire un traitement à la fois. Parce que, à nouveau, quand on est dans une crise comme ça, eh bien, plein de gens vont nous dire « Ah, mais est-ce que tu as testé l'acupuncture ?» Et puis ce médicament, et puis la sophrologie, et puis je ne sais quelle autre pratique. Alors, c'est très sympa de proposer des solutions, mais je vous conseille de faire les choses les unes après les autres. Parce que si on fait tout en même temps, ce qu'on peut comprendre, parce que quand on est dans ce genre de moment, on a envie que ça s'arrête. Donc on serait tenté d'aller chercher de tous les côtés. Le problème, c'est que en faisant tout en même temps, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fait effet. Et donc, si par exemple on prend un médicament, puis en même temps on fait des thérapies naturelles, on ne va pas savoir est-ce que c'est cette thérapie naturelle qui agit, puis du coup j'aurais pas besoin de prendre ce médicament, ou bien est-ce que c'est le médicament, et du coup je perds mon temps à aller voir tous les guérisseurs de la région. Donc ça peut être un de mes conseils, c'est d'essayer autant que faire se peut de faire les choses les unes après les autres. Et puis finalement, alors ça c'est un conseil qui s'applique je pense à tout le monde, pas que aux personnes qui souffrent d'une maladie chronique, mais c'est de se remettre en priorité, de vraiment affirmer certaines limites, de vraiment sélectionner ce à quoi vous dites oui, de dire oui aux choses avec lesquelles vous êtes réellement en accord, tout le reste, de dire non. Quand bien même ça peut être difficile parfois, mais c'est vraiment important de prendre soin de soi avant d'être là pour les autres, parce que si on le fait dans le sens inverse, on s'épuise, puis après plus personne n'est là pour les autres, simplement parce qu'on n'est ni là pour nous, ni là pour les autres. Donc de prendre soin de soi, de faire attention justement à son équilibre de vie, à la gestion du stress, réduire les horaires, l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, tout ça, c'est vraiment la base. Et quand il y a des choses comme ça qui se déclenchent, c'est un très bon rappel de revenir à ces bases-là. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce format un petit peu plus personnel vous aura parlé, vous en aurez appris un peu plus sur moi. Je vous remercie pour votre fidélité, on est de plus en plus sur ce podcast, donc merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous arrivez à prendre 2 secondes pour mettre une évaluation sur Spotify, sur Apple Podcast, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez, ça me fait vraiment énormément de bien d'avoir vos retours. Et puis je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.